Aujourd'hui, on commence une nouvelle série, Mieux vivre les secrets des proverbes. Et comme son nom l'indique, on va passer plusieurs semaines dans le livre des... Merci, ça passe... ici ça passe mieux, donc je pense que je vais m'arrêter à cet endroit-là, désolé pour vous. On va s'arrêter dans le livre des proverbes ce matin. Et le livre des proverbes, c'est un livre qui est fascinant. C'est l'un des livres les plus pratiques de la parole de Dieu. Et il a été écrit en grande majorité par le roi Salomon, le fils du roi David, l'un des plus grands rois de l'histoire d'Israël. Et rapidement, pour vous expliquer un petit peu le contexte, si vous ne connaissez pas l'histoire, le roi Salomon arrive au pouvoir. Et quelques temps après son arrivée au pouvoir, Dieu vient le voir en pleine nuit et il lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». Et si vous avez envie de lire l'ensemble du récit, je vous invite à aller dans la parole de Dieu en 2 Chroniques au chapitre 1, vous allez pouvoir retrouver ce récit-là. Et donc Dieu lui demande « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». Et là, on imagine Salomon hésiter. Puis nous, on se met à sa place. « Écoute Salomon, si t'as pas d'idée, moi j'en ai là. Moi j'ai des idées. Moi j'aimerais ne plus avoir de dettes. Moi, j'aimerais avoir une maison, parce qu'en plus, en ce moment, là, le prix des maisons, c'est un peu intense, là, donc j'aimerais avoir une maison. Moi, je rêve de remporter le 6,49. Je rêve de manger tout ce qui me plaît sans grossir. » Ok, là, ça fait plus d'écho. Okay. Il y a des jeunes qui aimeraient dire, moi, j'aimerais être le plus grand influenceur au monde. Moi, j'aimerais être tout de suite à la retraite, une belle retraite payée et partir à la retraite tout de suite. Mais Salomon ne dit pas ça. Salomon demande à Dieu, donne-moi de la sagesse et de la connaissance. Et aujourd'hui, quand on lit ça, on pourrait juste se dire, aïe, comment gâcher un vœu? B-R-A-V-O, Salomon. Bravo, Salomon. Génial, brillante idée. Mais Dieu honore ce vœu. Dieu honore ce choix-là et il donne de la sagesse et de la connaissance à Salomon, qui devient le roi le plus riche et le plus célèbre de l'époque. Si Salomon avait existé aujourd'hui, il aurait été plus riche et plus extravagant que Jeff Bezos, que Elon Musk et que tous les princes du Qatar réunis. S'il avait été présent aujourd'hui, le roi Salomon, il aurait réussi à calmer les ardeurs un petit peu intenses de Monsieur Poutine. Il aurait été bien plus aimé que Barack Obama ou Céline Dion. Il a été aussi l'inventeur des petites pensées, des petites punchlines. Vous savez que vous retrouvez sur les réseaux sociaux des églises. C'est lui l'inventeur de ça. Et quand on lit le livre qu'il a écrit, le livre des Proverbes, on se rend compte que la sagesse que Dieu lui a donnée lui a permis de prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions, non seulement pour sa vie, mais aussi pour son pays. Il a fait les meilleurs placements, il a pris les meilleures décisions qui a fait que son pays a grandi et a prospéré énormément. Il était tellement riche, Salomon, grâce à la sagesse de Dieu. Donc finalement, pas un si mauvais vœu que ça, hein, tout compte fait. C'est un bon choix. Puis on pourrait presque demander aujourd'hui à Salomon, « Hey, Salomon, imaginons qu'il est là, hein, okay, d'accord, imaginons, comment on devient sage ?» Si on devait résumer tes 31 chapitres en une seule phrase, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi le secret de la sagesse? Et c'est le titre de mon message ce matin. Le secret de la sagesse. Et je suis persuadé que Salomon nous dirait ceci. Il nous citerait le proverbe 9:10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je vais prendre un temps pour prier ce matin. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour le livre des Proverbes et pour ta sagesse. Seigneur, donne-moi les bons mots pour vraiment qu'on puisse comprendre, tous comprendre et saisir ce qu'est la crainte de Dieu. Aide-nous vraiment à réaliser à quel point nous devons te craindre, à quel point on doit t'honorer. Et donne-nous ta sagesse ce matin. Donne-moi ta sagesse ce matin et ouvre nos cœurs, s'il te plaît, Jésus, à ta parole. Merci, Jésus. Et que toute l'Église dise... Amen. Le thème de la crainte de Dieu se retrouve dans tout le livre des Proverbes. Et j'ai conscience qu'un message sur la crainte de Dieu, C'est pas le genre de message qu'on aimerait entendre un dimanche matin, surtout qu'on a passé une belle semaine ensoleillée. C'est le genre de message qu'on préfère éviter, un peu comme la repentance, un peu comme les messages sur la générosité ou sur le service. Dis-moi que je suis beau, pasteur. Dis-moi que je suis gentil. Dis-moi que Dieu m'aime. Mais la crainte de Dieu, non, m'en parle pas, s'il te plaît. Pas ce matin. Même aujourd'hui, notre génération dirait « Non, 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 Salomon avait faux. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'avenir écologique. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du réchauffement climatique, c'est la crainte des récessions économiques. C'est ça le commencement de la sagesse. » Mais Salomon nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu veux faire des bons choix dans ta vie? Dans ce cas, il te faut de la sagesse. Il y a une blague qui dit que quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? Eh bien, un homme intelligent va devoir résoudre des problèmes que l'homme sage n'aurait jamais eu à avoir. Donc si tu veux de la sagesse, il te faut la crainte de Dieu. Et en plus, Salomon dit que c'est le commencement, autrement dit le point de départ. Le début de la source, c'est la crainte de Dieu. Donc c'est important d'en parler. Et c'est important de commencer la série sur les proverbes en comprenant ce qu'est la crainte de Dieu. Mais avant toute chose, je vais expliquer ce que la crainte de Dieu n'est pas. Parce que je sens certains qui s'agrippent à leur fauteuil. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas un sentiment de culpabilité ou de peur. Je commence par ce point essentiel. Parce que parfois, on a tendance à mélanger cette compréhension-là. Parce que quand on pêche, et moi le premier, quand je pêche, j'ai peur de venir devant Dieu. J'ai peur de venir devant Dieu parce que je me dis, mais je n'ose même pas me rapprocher de lui. Je sais qu'il est saint, je sais que je dois le craindre. Puis je ne sais même pas ce que je dois faire pour qu'il me pardonne. Et j'ai juste peur qu'il vienne m'écraser comme une fourmi. Et selon le théologien Michael Reeves, la peur du péché vous éloigne de Dieu. Cette peur est la peur d'une personne qui craint d'être exposée comme pécheur et qui fuit donc Dieu. C'est la peur d'un châtiment. Alors oui, il faut comprendre que lorsque l'on pêche, il y a des conséquences au péché. Mais il faut comprendre que lorsque tu t'approches de Dieu pour lui demander pardon, ne t'attends pas à un châtiment. Attends-toi au pardon. Et c'est John Bunyan, théologien du XVIIe siècle, qui lui expliquait que l'œuvre principale du diable, de notre ennemi spirituel, c'est de faire naître, de faire grandir une crainte de Dieu en nous, qui fait que les gens ont peur de Dieu, qui fait que les gens fuient Dieu au lieu de se rapprocher de lui. Et il continue en disant que, à l'inverse, le Saint-Esprit en nous éveille en nous une crainte qui fait qu'on ne veut pas fuir Dieu, mais qu'on veut être près de Dieu. Il faut vraiment comprendre ce que Paul nous dit en Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, avant même ta naissance, avant même que tu ne commettes un péché, avant même que tu ne sois croyant, Jésus a payé le prix fort pour te sauver. » Donc n'aie pas peur de t'approcher de lui parce qu'il est mort pour te pardonner de chacun de tes péchés. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de s'approcher de lui quand on a péché. Mais la crainte de Dieu, c'est l'idée de se rapprocher de lui avec crainte qu'il s'éloigne de nous. Seigneur, je crains que ta faveur soit plus sur moi. Je crains, Seigneur, que tu t'éloignes de moi. C'est ça la crainte de Dieu aussi. La crainte de Dieu, ce n'est pas non plus une erreur théologique. J'ai déjà entendu plusieurs fois, non, on n'a plus à craindre Dieu. Non, on n'a plus à craindre Dieu parce que dans la Bible, il est noté, il n'est pas affiché sur vos écrans, mais il est noté dans 1 Jean 4, verset 18, que l'amour parfait bannit la crainte. Donc on ne doit pas craindre Dieu. Ici, dans le contexte, dans 1 Jean, ce n'est pas la crainte de Dieu que Jean met en lumière. C'est la crainte qu'avaient les chrétiens quand ils pensaient à la mort, quand ils pensaient au jugement final, quand ils pensaient au retour de Christ. Jean montre à ses lecteurs qu'une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur, tu n'as pas à craindre la mort. Voilà comment je peux l'illustrer aussi. Qui a vu les dents de la mer? Ok. Qui a eu peur des requins depuis qu'il a vu les dents de la mer? Il y en a quelques-uns quand même. Ici, c'est comme si Jean nous dirait « Ne crains pas de te faire bouffer par un requin parce que tu es dans une piscine en plein milieu du Québec. » L'amour de Jésus t'a sauvé de la mort. Si tu as peur de la mort malgré tout, c'est comme si tu avais peur de te faire bouffer par un requin alors que tu es dans une piscine au Québec. Ta peur n'a pas lieu d'être. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas non plus réservé à l'Ancien Testament. Et je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais plusieurs pensent aussi que la crainte de Dieu, c'est juste pour l'Ancien Testament, mais nous, on est dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'en parle pas de la crainte de Dieu, ce qui est faux. La crainte de Dieu, on la retrouve dans Actes, on la retrouve dans 2 Corinthiens, on la retrouve dans l'Apocalypse, on la retrouve dans plein de versets où est-ce qu'on voit que la crainte de Dieu est encore présente dans le Nouveau Testament. Et enfin, la crainte de Dieu, ce n'est pas une option dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas une option dans notre marche avec Dieu. Si tu veux mieux vivre selon les proverbes, au travers de cette série, si tu veux mieux vivre selon les proverbes, il faut que tu vives dans la crainte de Dieu. Parce que parfois, aujourd'hui, on a tendance à le constater qu'on prend Dieu comme un sandwich Subway. Quand tu vas au Subway, tu choisis ton pain, tu choisis ta sauce, tu choisis ce que tu mets à l'intérieur, tu customises un petit peu ton sandwich, et puis c'est vraiment tout ce qui te plaît dans le sandwich. Ce serait dommage de mettre quelque chose qui ne te plaît pas, hein, quand même. Et on fait pareil avec Dieu aujourd'hui. Alors moi, je vais prendre la partie du Dieu où est-ce qu'on dit qu'il m'aime. Hein, c'est mon papa, ça je le prends. C'est mon sauveur aussi. Quoique, est-ce que je veux d'un Dieu qui envoie les gens en enfer? Bon, on verra pour la prochaine fois. En tout cas, je le prends maintenant. Moi, je veux d'un Dieu surtout là qui me veut prospère, qui me veut riche, qui me veut en bonne santé, qui veut que j'ai une belle famille, qui me laisse me comporter comme je veux à l'église, chez moi, partout où je vais. Je veux un Dieu comme ça. Par contre, non, la crainte, je ne la prends pas. Pas aujourd'hui, non, non. Je ne prends pas non plus le fait que Dieu est omniprésent. Je trouve ça bizarre un petit peu le concept. Je ne veux pas non plus d'un Dieu qui me dise comment vivre ma sexualité. Je ne veux pas non plus d'un Dieu qui me dise comment je dois gérer mes finances, ma générosité. Non, ça, je ne veux pas ça. Ni servir à l'église. Bon. Non, non. Moi, je vais au Subway pour être servi, pas pour servir. Et on est dans une société où nous voyons Dieu comme un sandwich Subway. On prend ce qui nous plaît et on laisse ce qui nous dérange. On ne croit plus en certaines choses parce qu'on se dit « Non, mais ça, c'est plus actuel, c'est plus culturel. Ça, c'est vieux de penser à ce genre de choses. Ça, ça ne fait pas mon affaire. J'arrive pas à imaginer un Dieu qui soit comme ça. » Mais un Dieu qui est actuel, qui est culturel, qu'on arrive à comprendre parfaitement, qu'on met à notre hauteur, ce n'est plus Dieu, c'est une idole. Et on ne peut pas enlever la crainte de Dieu, de notre théologie. Parce qu'à partir du moment où tu enlèves la crainte de Dieu, quand tu regardes vers Dieu, tu n'adores plus Dieu, tu adores une idole. Et c'est non négociable. La crainte de Dieu est non négociable si nous voulons suivre Jésus jour après jour. Maintenant, qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Parce que depuis tout à l'heure, je suis un peu intense là, je vous en parle, je vous sens, ouh, ok, il est en forme le pasteur. Qu'est-ce que la crainte de Dieu si on veut avoir de la sagesse? Et là encore, Salomon répond. Il nous répond en Proverbe 8, verset 13, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est haïr le mal. Pas nos voisins, pas notre boss, pas le dirigeant politique qui nous énerve un petit peu. Pas votre pasteur non plus, s'il vous plaît. C'est haïr le mal. Une seule chose peut m'éloigner de Dieu. Une seule chose peut m'éloigner de la crainte de Dieu, de sa sagesse, des promesses qu'il a pour ma vie, de mon intimité avec lui, de la faveur qu'il dépose sur ma vie. Et c'est le mal que je laisse rentrer dans mon cœur. C'est pour ça que nous devons haïr le mal. Nous devons apprendre à haïr le mal afin de ne pas aller vers lui. Par exemple, moi, j'haïs les choux de Bruxelles. Okay? Rien que l'idée de manger des choux de Bruxelles, c'est un concept qui... Non, ça ne rentre pas là-dedans. Rien que l'odeur quand on cuisine des choux de Bruxelles, je file au McDo. Je ne vais pas dans la cuisine. Et haïr le mal, ça doit nous amener à faire la même chose. À ne pas courir vers le mal, mais à fuir loin du mal. Et pour être encore plus précis, parce que Salomon, il est fin avec nous. Moi, je trouve fin, Salomon. Il sait à quel point on est lent à comprendre. On est lent à saisir certaines vérités. Okay, il est vraiment nice. Et je pense qu'il sait très bien que le mal, là, c'est un concept philosophique qui est un peu trop intense pour nous. Donc, il nous détaille ce que c'est le mal. Il continue verset 13. « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. » Pour craindre Dieu, afin de mieux vivre selon le livre des Proverbes, nous devons apprendre à haïr ces quatre choses. Premièrement, haïr l'orgueil et l'arrogance. Les deux mots ici se ressemblent en hébreu, mais il existe une subtilité entre ces deux mots. L'orgueil, ça se manifeste chez quelqu'un qui se croit supérieur aux autres parce qu'il a des biens, parce qu'il a des talents, parce qu'il a des dons. Et à l'inverse, l'arrogant, il se croit supérieur aux autres juste parce qu'il est meilleur que les autres. Pas besoin d'avoir des dons supplémentaires, je suis meilleur. Et c'est ça la différence entre les deux. Et j'aime ce que David Potier, le pasteur de la chapelle, a dit au sujet de l'orgueil. Il a dit que l'orgueil, et on peut même rajouter ou l'arrogance, l'orgueil et l'arrogance, c'est affirmer que Dieu n'a rien à voir avec les qualités que j'ai, avec les dons que j'ai, avec ce que je suis. C'est croire que nos dons et nos talents viennent de nous, qu'on n'a besoin de personne. Et l'orgueil et l'arrogance se manifestent quand on se dit dans nos addictions, je n'ai pas besoin d'en parler, je vais m'en sortir tout seul. L'orgueil et l'arrogance se manifestent quand on se dit, hey, on devrait m'écouter plus souvent, parce que j'ai toujours raison, donc écoutez-moi s'il vous plaît. L'orgueil et l'arrogance, ça se manifeste quand on se dit, je suis comme ça et personne ne me changera. Et peut-être que quelqu'un est en train d'avoir une réaction orgueilleuse et arrogante en ce moment, en se disant « Yes, pasteur, preach it pour les autres !» Moi, ça ne me concerne pas ce matin. Et Salomon nous explique que l'orgueil et l'arrogance sont dangereux pour nos vies. Proverbe 16, 18 nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Combien de couples ? Combien de mariages ont été détruits à cause de l'orgueil ou de l'arrogance? Pas besoin de parler de nos problèmes, on va s'en sortir nous-mêmes. C'est pas à lui de changer, enfin c'est à lui de changer, pardon, c'est pas à moi de changer, c'est à lui de changer, ça aurait été bizarre sinon. Je suis capable de maîtriser mes pulsions quand je vois ma collègue, là. Je suis capable, j'ai pas besoin d'en parler. Je maîtrise mon envie d'aller plus loin avec elle, je la maîtrise cette envie-là. Combien de familles ont été brisées à cause de l'orgueil ou de l'arrogance à la suite d'une dispute? C'est à lui de demander pardon, pas à moi. C'est à lui de changer, pas à moi. Combien de burn-out aurait pu être évité? Combien de dépendances auraient pu se stopper si quelqu'un avait dit « Je reconnais que j'ai besoin d'aide. Je reconnais que je n'y arrive pas par moi-même. » Et l'arrogance et l'orgueil précèdent la ruine et la chute parce que ça nous coupe de la crainte de Dieu. Ça nous coupe de la sagesse de Dieu à faire les meilleurs choix pour nos vies. Et à tous les Québécois, vous êtes bénis de ne pas être français. Je peux mettre l'article, Luc? Parce qu'il y a un article qui est sorti qui dit clairement que les Français sont vraiment arrogants. Donc priez pour moi. Enfin non, pas pour moi, j'ai rien dit, non, parce que je suis arrogant, donc priez pour Jérémy, s'il vous plaît. Et si Dieu nous appelle à haïr l'orgueil et l'arrogance, c'est parce qu'il sait les bienfaits d'un cœur qui est humble. Proverbe 22, 4 nous dit que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Et Salomon nous dit aussi de haïr la voix du mal et la bouche perverse. Et il faut comprendre ici la voix du mal par l'idée de ne pas suivre les principes de la Bible, mais plus vivre une vie de compromis, un peu dans le style de la société où un pied dans l'église, un pied dehors, un peu entre les deux, une vie de compromis. Une vie un petit peu comme les enfants quand ils font une bêtise. Mais tout le monde le fait. Donc moi aussi je veux le faire. Si tout le monde le fait, c'est normal. Tout le monde dépasse les limitations de vitesse. C'est normal, bah ouais. Il n'y a personne qui s'arrête vraiment à un arrêt au coin de la rue. Tout le monde, tous mes collègues prennent une pause plus longue que prévu. Pourquoi pas, c'est ça? Tout le monde en profiterait et ne dirait rien si le préposé à l'épicerie avait oublié de scanner un article dans le panier. Tant mieux pour nous, c'est vrai, Luc. Tout le monde a des rapports sexuels hors mariage, alors pourquoi pas moi? Tout le monde regarde la pornographie. On banalise ça aujourd'hui, donc c'est correct. Tous les gars se retournent quand une belle fille passe. Donc pourquoi pas moi? Et la voie du mal, c'est accepter de vivre une vie de compromis. Mais la voie du mal, c'est aussi manquer de générosité. C'est manquer de compassion au sujet de la justice. Proverbe 15, verset 9 nous dit que la voie du mal, la voie du méchant, est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Et c'est pour ça que nous, on est fiers que NV Junior enseigne aux enfants un cœur de justice, un cœur de vouloir aider les plus faibles, un cœur de vouloir aider les plus pauvres, parce que c'est ce que Dieu aime. Et Salomon nous dit aussi de haïr la bouche perverse. Et la bouche perverse, ce n'est pas juste la bouche qui dit des noms d'église. C'est aussi une bouche qui critique constamment, qui condamne, qui fait du commérage, qui fait que propager des mauvaises nouvelles, qui écrit toujours des posts assassins et très violents sur Facebook. Et la haine du mal, c'est haïr ces quatre choses-là et que quelqu'un dise aïe aïe. Aïe aïe. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je me retrouve dans chacun de ces points-là. Moi je me retrouve dans ma bouche arrogante, perverse, orgueilleuse. Je suis trop la voix du mal parce que je suis pécheur, mais guess what, vous aussi? C'est le cas de tout le monde. Ce matin, on est tous orgueilleux, arrogants, à suivre la voix du mal et avoir la bouche perverse. Dis à ton voisin, j'ai un cœur aussi mauvais que le tien. On aimerait dire autre chose, hein, ce matin. Mais voilà notre espoir. Dieu est au courant de ça. Dieu est au courant de ça et il a prévu la solution parfaite qui se trouve en Jésus. Vivre une vie dans la crainte du mal, dans la sagesse parfaite, c'est mission impossible sans Jésus. Jésus était l'homme le plus sage au monde. Il a été bien plus sage que Salomon. On le voit dans les Écritures à un moment donné, dans Matthieu, quand la foule se présente devant lui, il dit « Hey, les gars, devant vous là, il y a plus qu'un Salomon. Je suis plus sage que Salomon. » Et Jésus était sage parce qu'il craignait son Père dans le sens où il a haï le mal. Jésus n'a jamais péché. Jésus a parfaitement haï le mal. Il avait une faveur incroyable sur sa vie. Il nous a ouvert la parfaite voie de la sagesse. Et par Jésus, on a un accès au pardon lorsque nous n'arrivons pas à haïr le mal. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Par Jésus, tu as la possibilité de recommencer. Et ce n'est pas seulement une deuxième chance qu'il te donne. C'est bien plus que ça. Proverbe 24, 16 dit que « Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera les 7 fois. » Et ça ne s'arrête pas juste à 7. 8, 9, 10, peu importe le nombre de fois où tu peux tomber, Jésus sera toujours là pour te relever, pour t'aider à haïr et à craindre Dieu. Pas haïr Dieu, à haïr le mal et à craindre Dieu. Et c'est un travail à chaque jour. C'est un travail à chaque jour. Tous les jours, on doit venir dans sa présence et dire « Seigneur, aide-moi à te craindre. Aide-moi à haïr le mal. Donne-moi ta sagesse, Seigneur. » Et plus tu vas le faire, plus tu vas développer une attitude comme ça, jour après jour, semaine après semaine, plus ton ADN spirituel va changer. Il y a une recherche qui est sortie il y a quelques années de ça. Et en fait, les chercheurs ont trouvé qu'une consommation élevée d'alcool, une consommation quotidienne et excessive d'alcool pouvait modifier l'expression de certains gènes qui pouvaient entraîner un désir d'alcool encore plus grand en nous. Plus tu vas consommer ta haine du mal, plus ton ADN spirituel va changer et plus tu auras envie encore plus de te rapprocher de Dieu parce que ton ADN va changer. Plus tu vas développer tes prières à chercher, à haïr le mal, à craindre Dieu et plus ta vie va être bouleversée, ton témoignage va évoluer, la façon dont tu vas parler aux autres va être transformée. On va voir un changement dans ta vie et tu auras envie de plus parce que plus on s'approche de Dieu et plus on a envie de lui. Et ce qu'il y a de merveilleux en Jésus, c'est que pour avoir sa sagesse, il suffit de le demander avec foi. Jacques nous dit en chapitre 1, au verset 5 à 6, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche, sans faire de reproche. » Dieu n'est pas comme ça devant toi. Aïe, aïe, c'est la sixième fois qu'il me demande aujourd'hui la sagesse. Oh, ok, on va faire un effort cette fois-ci. Non, sans reproche, Dieu te donne la sagesse une fois que tu lui demandes avec foi. Ce qui après, il écrit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Sans douter. Ne doute pas quand tu t'approches de Dieu pour lui demander, Seigneur, donne-moi la sagesse. Crois qu'elle t'a été donnée déjà. Et on est juste au début de cette série. Cette série, c'est juste le commencement de la série. Mais tu ne pourras pas grandir au travers de cette série. Tu ne pourras pas évoluer dans cette série si tu ne prends pas un temps ce matin pour dire, Seigneur, aide-moi à te craindre. Aide-moi à haïr le mal. Donne-moi ta sagesse. C'est un temps ce matin qu'on va prendre tout à l'heure pour vraiment que Dieu vienne éveiller notre cœur à sa sagesse. Elle ne te croit pas sage, elle ne te croit pas arrivé. La sagesse est à poursuivre, jour après jour. Proverbe 3, verset 7 nous dit ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et ça, Salomon l'avait oublié. Je vous ai parlé au début de la belle histoire de Salomon qui arrive et puis c'est royal, sa sagesse est royale, c'est extraordinaire. Mais la fin de la vie de Salomon est vraiment triste. Salomon a délaissé la sagesse. Il s'est cru trop sage. Il est devenu orgueilleux. Il a commencé à fixer son regard sur ses richesses. Et non plus sur ses dons. Il a commencé à être arrogant, à vouloir se vanter auprès des autres, à vouloir rechercher l'approbation des autres. Il a commencé à suivre les voies du mal. La mode de l'époque, c'était d'avoir plusieurs femmes et d'avoir plusieurs dieux. Il a commencé à vivre une vie de compromis. Et sa bouche, qui avant donnait des paroles sages, des paroles de connaissance est devenue une bouche perverse qui a commencé à adorer des fausses idoles, des faux dieux. Et sa bouche a entraîné le peuple dans la chute. Et c'est triste parce que alors que le commencement de son règne a été incroyable, la fin de son règne, il a eu un royaume divisé. Il a perdu la faveur de Dieu, il a perdu la sagesse et la crainte de Dieu. La faveur de Dieu n'était plus sur la vie de Salomon parce qu'il a vraiment délaissé la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. C'est pour ça que je vous dis, cherchons tous les jours à être renouvelés dans la sagesse et dans la crainte de Dieu tout au long de notre vie. Parce que la crainte de l'Éternel, nous dit Proverbe 14, 27, c'est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de Dieu peut vous conduire vers des sentiers de bénédiction. La crainte de Dieu peut te conduire vers un sentier de vie, vers un sentier d'espoir, vers un nouveau sentier. La crainte de Dieu, c'est la vie. Et je vous invite à vous lever ce matin. Je ne ferai pas d'appel ce matin pour lever la main si vous voulez avoir de la sagesse ou la crainte de Dieu, parce que je pense qu'on est tous concernés ce matin. D'une façon plus ou moins grande, peu importe, nous sommes tous concernés ce matin. Et ce matin, je veux juste inviter à une réflexion dans ta propre vie, à ta place, là où tu te trouves. Cherche dans la présence de Dieu un domaine où tu réalises que tu ne crains pas assez Dieu. Juste un domaine où tu réalises que, ah Seigneur, j'haïs tellement pas le mal là en moi. Juste un. Ça peut être des commérages. Ça peut être ton cœur qui est juste dur et qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à demander pardon. Ça peut être une personne qui consomme de la pornographie, qui dit « Ouais Seigneur, je te crains tellement pas assez parce que je cours tous les jours vers ça. » Ça peut être dans tes regards que tu fais de trop vers tes collègues, un regard qui n'est pas sain. Des messages qui sont pas sains. Ça peut être des mensonges sur lesquels tu as bâti ta vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de mettre à ton cœur ce matin? Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors que c'est là devant toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas partir ce lieu en disant bon, je ne pourrais pas changer? Ou est-ce que tu vas prendre ce choix-là de demander pardon à Dieu? J'ai essayé de l'apporter du mieux possible, mais Jésus peut te pardonner. Jésus peut changer la façon dont tu vois ce challenge. Jésus peut te donner la haine de ce mal qui est en toi là. Cette chose dans laquelle Dieu t'a positionné ce matin. Jésus peut t'aider à haïr ça si tu lui demandes pardon et si tu lui demandes sa sagesse pour ta vie. C'est entre toi et lui ce matin. Laisse-moi prier pour nous. Merci mon Dieu pour ta parole. Merci mon Dieu parce que nous croyons que tu es fidèle et juste pour nous pardonner une fois qu'on vient devant toi pour te demander pardon. On réalise qu'on est pécheur, Seigneur. Et Jésus, je te prie que tu puisses déverser sur chaque personne ce matin un endroit où il ne te craint pas assez, un endroit où il laisse le mal dominer sa vie, son cœur, ses pulsions, ses pensées. Jésus, je te prie pour que tu puisses déverser un torrent de grâce, un torrent de pardon, un torrent d'espoir et un torrent de sagesse sur les vies aujourd'hui. Je te prie vraiment que chaque personne puisse quitter ce lieu avec une portion nouvelle de ta sagesse, avec une portion nouvelle de ta crainte. Viens nous changer, Jésus. Viens transformer cette église, Père. Que nous soyons animés à tous les jours, à chaque fois qu'on se lève, de cette sagesse, de cette crainte de toi, de cet amour pour toi. Seigneur, alors que le tourbillon de nos vies va reprendre ce matin, on veut se positionner dans ta présence et te dire « Parle, parle-moi ». Parle dans mon cœur, je veux t'obéir. Parle à mon cœur, je veux te servir. Parle à mon cœur, je veux délaisser ça pour être recouvert de ta sagesse, de ta grâce et de ton amour. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Enseigne-nous ton chemin, Jésus. Et que tout au long de cette série, nous puissions goûter et être transformés par ta grâce, mais aussi par ta sagesse. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. À toi la gloire, Père.